homme qui est un petit peu d'un air rébarbatif, nous en parlerons quelque peu tout à l'heure, un homme en tout cas rempli du Saint-Esprit. Un homme, n'est-ce pas, rempli du Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit dont il est animé, qui va donner à son ministère un impact si puissant. C'est quand même extraordinaire. La parole de Dieu nous dit qu'il se tenait dans les déserts, et figurez-vous que les foules entières se rendaient vers Jean-Baptiste pour écouter les paroles qui sortaient de sa bouche. Et ces gens-là, pour la plupart d'entre eux, après avoir confessé leurs péchés, se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Il fut grand aussi par son caractère. Un homme désintéressé, voyez, qui vivait d'une manière tout à fait frugale. On peut dire que ses ambitions matérielles était vraiment très très limité, n'est-ce pas, puisque l'Écriture dit qu'il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Voilà ce qui lui convenait, voyez. Un homme qui ne cherchait pas le confort. Jésus dira, on ne l'a pas trouvé dans les maisons des rois, il n'est pas vêtu d'abri précieux. Non, Jean-Baptiste, c'est l'homme de la solitude, c'est l'homme du désert, c'est l'homme du renoncement, c'est l'homme du sacrifice. C'est l'homme de la frugalité. C'est aussi un homme qui faisait preuve de détermination, voyez. Quelqu'un qui avait un esprit ferme et résolu. Je dirais d'une manière plus simple que c'était quelqu'un qui savait ce qu'il voulait. L'Écriture nous dit que, eh bien, il avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Ça mérite quelques explications. Vous savez, dans le sens symbolique, pour les Israélites, se ceindre les reins, c'était un signe de résolution et de détermination. Pourquoi ? Parce que les gens, même les hommes, portaient un vêtement ample, une espèce de robe, et lorsqu'on était dans l'intimité du foyer, eh bien, on détachait la ceinture, et lorsqu'on sortait de la maison pour se rendre à son travail, pour pratiquer une activité particulière, alors il fallait se ceindre les reins. C'était le signe que, allez, on y allait, et on faisait preuve de détermination. Et je crois que c'est bien ce que l'on pouvait trouver chez Jean-Baptiste, un homme qui trace sa voie, il sait où il va, il sait quelle est son vocation, il n'hésite pas, il sait quel est son appel, il sait ce qu'il veut. Un homme aussi endurant. Tenez, cette affaire de vêtements de poils de chameau. Hein. Vous savez que le chameau, eh bien, c'est un animal extrêmement endurant. Il peut traverser des kilomètres, des dizaines de kilomètres de désert avec le minimum. Alors on parle trivialement de ceux qui ont un caractère de chameau, mais moi je ne veux pas vous parler de caractère de chameau, je veux vous parler de l'endurance du chameau. Et en cela, voyez, eh bien il y a une note particulière à l'égard de Jean-Baptiste, un homme endurant. Un homme résistant, un homme persévérant, comme un chameau, mais dans le bon sens du terme, vous voyez ce que je veux dire. Voilà quel était le personnage. Grand il le fut par son message, sans concession, sans compromis. Un message, une prédication claire, nette, précise, limpide, simple, mais pourtant tellement, tellement percutante. Il dénonçait, Jean-Baptiste, vigoureusement le péché, voyez. Il n'était pas de ces prédicateurs à l'eau de rose, on en trouve tellement aujourd'hui, qui caressent leurs auditoires dans le sens du poil. Non, non, mes amis, entendez-le, appelant les pécheurs à la repentance, une repentance authentique, détruisant aussi les illusions provoquées par l'hypocrisie religieuse. Il disait à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères. D'autres traductions disent bande de serpents. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Et il disait, ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, nous sommes de pieux Israélites, car dira-t-il de ces pierres-ci, Dieu est capable de susciter même des enfants à Abraham. Voyez. Et pourtant, sa prédication un petit peu rugueuse, qui vous prenait à rebrousse-poil, eh bien, elle avait un effet, elle avait un impact. Et même la parole de Dieu nous dit que les gens de mauvaise vie, dites, les prostituées se rendaient vers Jean-Baptiste et après avoir confessé leur misère, leur péché, étaient baptisées par lui dans le fleuve du Jourdain. Parlons aussi, et il fut grand en cela, de son intégrité morale. Il n'y avait pas que le message, il n'y avait pas que l'aspect public, mais intérieurement, c'était un homme qui était d'une rectitude morale absolue. D'abord son humilité. Lorsque les autorités religieuses viennent l'interroger en disant « Que dis-tu de toi-même ?» il affirmera qu'il n'est pas le Christ, mais simplement la voix de celui qui crie dans le désert « Préparez le chemin du Seigneur ». Un homme qui n'a pas de prétention excessive, qui sait rester à sa place. Vous savez, c'est important ça, de savoir rester à sa place. Comme on dit vulgairement, de ne pas se prendre la tête, mais de faire preuve de modestie, de réserve, de sentiments modestes, humbles, à l'égard de notre propre personne. Il incite ses propres disciples à suivre Jésus plutôt qu'à le suivre lui-même, disant « Mais voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et comme il ne semble pas avoir compris la première fois, le lendemain, nous dit l'évangile de Jean au chapitre 2, il remet ça en disant à deux de ses disciples « Voici l'agneau de Dieu. » Et se détournant de Jean-Baptiste, ils suivent Jésus et ils feront bien. Quand ses disciples, justement, furent dépités de constater que Jésus avait plus de succès que lui, que Jean-Baptiste, ils lui diront, « Maître, maître, celui auquel tu as rendu témoignage, ce Jésus de Nazareth, tous vont à lui !» Alors, il fera le commentaire suivant, « Il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. » Voyez, pas la moindre trace de rivalité ni de jalousie. Avouez que c'est un sentiment qui vient facilement, ça. Hein? Même si nous ne voulons pas toujours le reconnaître, vous et moi, nous avons senti parfois dans notre cœur la morsure de la jalousie en disant « Ah, un tel a plus de succès, peut-être même plus de succès, plus d'efficacité dans le service de Dieu. » Mais chez Jean-Baptiste, il n'y avait pas cet état d'esprit, cette mentalité. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Sa justice. Même le roi Hérode, cette espèce de vieux tyran pervers, reconnaissait en lui un homme juste et saint. Ah, Dieu fasse qu'on reconnaisse en nous des hommes et des femmes justes et saints, qu'en pensez-vous? Un homme qui forçait le respect. La Bible dit, c'est étrange, que le roi Hérode en personne craignait Jean, voyez. Il y avait quelque chose qui impressionnait chez cet homme, justement à cause de son intégrité morale. Et puis son courage, ça fait partie aussi de son intégrité morale. Vous savez, c'est facile de varier le message en fonction des auditeurs que l'on a en face de soi. Mais chez Jean-Baptiste, il n'y avait pas de ça. Hein? Il ose dénoncer le péché, justement, d'Hérode, lui disant, parce que cet homme vivait dans l'adultère avec la femme de son propre frère, il n'était pas permis, roi Hérode, de vivre avec la femme de ton frère. Il ne cherche pas l'approbation des hommes, mais celle de Dieu. En restant fidèle à la mission qui lui a été confiée, il ne court certainement pas après la popularité. Il ne flatte personne, ni les riches, ni les puissants. Même le roi Hérode se laisse tenser par lui, il ne t'est pas permis. Vous savez, il faut qu'il y ait aujourd'hui des hommes de Dieu qui disent encore, il y a le bien et il y a le mal. Il y a ce que Dieu approuve et il y a ce que Dieu désapprouve. Il y a ce qui est permis, ce que Dieu honore, et il y a ce que Dieu interdit formellement dans sa parole. On ne peut pas tergiverser, on ne peut pas s'amuser, on ne peut pas rigoler avec la parole de Dieu, mes amis. Il ne t'est pas permis. Ah, c'est vrai qu'il va le payer, et cher, de sa vie. Parce que justement, cette femme, eh bien, avec laquelle Hérode vit dans une situation scandaleuse, va manigancer pour que la voix du prophète se taise définitivement et Jean-Baptiste sera décapité. Alors, voyez, à plus d'un titre, pour toutes ces raisons, pour le sérieux qu'il a manifesté dans l'accomplissement de sa mission, pour le fait qu'il était rempli du Saint-Esprit, pour son caractère désintéressé, déterminé, endurant, pour son message sans concession, vigoureux, pour son intégrité morale faite d'humilité, de justice, de courage. Pour toutes ces raisons, il serait bon que vous et moi, nous puissions nous inspirer de son exemple. Il est un modèle à tous égards, voyez. En tout cas, à bien des égards. Certes, ça n'est que Jésus que nous devons adorer. L'Écriture dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Mais si des personnages tels que Jean-Baptiste nous sont présentés dans la parole de Dieu, c'est pour que nous puissions, eh bien, pour que soit suscité en nous cette saine et sainte ambition de leur ressembler quelque peu. Et donc, je le répète à bien des égards, pour toutes les raisons que nous venons brièvement de passer en revue, il serait bon de s'inspirer de l'exemple de Jean-Baptiste. Et pourtant, quand on y regarde de près, notamment dans le texte que nous avons lu ce matin, nous apercevons que Jean-Baptiste n'était pas parfait. Quelque part, je vais vous dire, ça me rassure. Parce que, tiens, moi non plus, je ne suis pas parfait. Mais je crois que Dieu est un Dieu qui fait grâce. Non pas qu'il excuse le péché. Non. C'est pas ce que je veux dire. Non pas qu'il le considère avec désinvolture. Dieu ne dira jamais, écoute, tu vis dans le péché, ben on va faire avec. On va fermer les yeux sur cette affaire, on regardera de l'autre côté. Non, mais Dieu fait grâce. Dieu fait miséricorde et lorsque parfois il nous arrive de fléchir ici ou là, le Seigneur ne nous rejette pas pour autant, il nous tend une main secourable pour nous remettre. Pourquoi est-ce que je dis qu'il n'était pas parfait? D'abord, il semble qu'il y ait eu dans sa foi vis-à-vis de la personne de Christ, un moment de flottement, un moment d'interrogation, de perplexité, voire, disons-le, de doute. Il faut se replacer dans le contexte. Jean-Baptiste est au fond de sa prison. On n'a pas toujours les idées très claires lorsque l'on se trouve dans des situations aussi dramatiques que celle-là. Vous savez, ce n'était pas la prison 3 ou 4 étoiles, hein. C'était une geôle infâme, un cachot infect, et il va y croupir là pendant des semaines, des mois, des années peut-être, et finalement y mourir. Et là, eh bien, lui parviennent les rapports de ce qui se passe à propos de ce Jésus auquel il a rendu témoignage, comme étant le Fils de Dieu, comme étant celui qui ôte le péché du monde. Ah! Et puis il y a l'espérance des Juifs, et Jean-Baptiste était un Juif. Quelle était l'espérance des Juifs? Les Juifs attendaient un Messie qui délivrerait Israël du joug des Romains qui occupaient le pays. Un Messie qui rétablirait le royaume de David. Et visiblement, Jésus ne prenait pas ce chemin-là. Alors Jean-Baptiste est perturbé et il fait parvenir à Jésus ce message au travers de 2 de ses envoyés. Es-tu bien celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Je vous dis que sa foi est perturbée. Je vous dis que sa foi vacille quelques instants. C'est plus trop où il en est que croire, que penser à propos de ce Jésus. Et Jésus, dans sa réponse, va lui expliquer que finalement, les faits parlent d'eux-mêmes. Ces miracles, ces prodiges, ces guérisons, ces résurrections, ces lépreux purifiés, ces démoniaques libérés, prouvent qu'il est bien celui qui doit venir, le Christ, le Messie. Et ce que Jésus lui apporte comme réponse est assorti d'une mise en garde. Heureux celui pour lequel je ne serai pas une occasion de chute. C'est sérieux ce que dit Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Autrement dit, ça veut dire que même les plus grands, même les plus affermis, ne sont pas dispensés de veiller jusqu'au bout pour être trouvés fidèles dans leur foi et dans leur engagement. Quel que soit, mes amis, votre, comment dire ça, niveau spirituel, Même si vous avez développé avec le Seigneur, plaise à Dieu qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous, une communion profonde. Même si vous avez vécu des expériences fortes, marquantes, du point de vue spirituel. Même si vous avez expérimenté, vécu une conversion retentissante. Même si vous jouissez de la bénédiction de Dieu. Même si vous êtes baptisé, rempli du Saint-Esprit, même si vous exercez les dons spirituels, même si vous servez le Seigneur de tout votre cœur avec fidélité depuis des mois et des années, même si vous êtes une colonne dans cette église, ça ne vous dispense pas de veiller. Et de veiller jusqu'au bout. Parce que l'Écriture dit que celui qui croit être debout doit prendre garde de ne pas tomber. Et on en connaît plus d'un dans la parole de Dieu, qui occupait le sommet, si je puis dire, de la hiérarchie spirituelle, et qui ont dégringolé lamentablement. Alors ne soyons pas de cela. Et si nous avons, comment dire, le vent en poupe, et plaise à Dieu que ce soit le vent de l'esprit, eh bien malgré tout, continuons de veiller. Ainsi que l'a dit Jésus, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. J'ose penser, et je pense tout court, que Jean-Baptiste, au fond de sa prison, a été rassuré par les déclarations de Jésus. Je pense très fort que la parole de Jésus a dû le réconforter, l'apaiser, le consoler. Et il a dû se dire là, dans son cœur, oui, c'est lui. C'est bien lui, le Christ, le Messie. Et même si son parcours, même si son ministère n'évolue pas de la façon dont moi j'aurais conçu les choses, peut-être à ma manière d'homme, je veux continuer à faire confiance à mon Dieu. Il est vraiment l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et puis il y a quelque chose d'étonnant que dit Jésus. C'est le plus grand. Et il ajoute, cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis sûr que vous êtes posé la question quand vous avez lu ce passage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jean-Baptiste était encore, quoiqu'il fût grand, il était encore sous le régime, sous l'alliance de la loi. Vous comprenez? De la loi de Moïse. Et depuis la venue de Jésus, tout au moins pour ceux qui croient en lui, eh bien ces gens-là bénéficient de l'alliance de la grâce. Amen. Et les privilèges de l'alliance de la grâce sont supérieurs aux privilèges de l'alliance de la loi. De telle manière que même le plus petit vivant sous la grâce est plus grand que le plus grand vivant sous la loi. Est-ce que vous me suivez? Quels sont nos privilèges en tant qu'hommes et femmes vivant sous la loi? Mais des privilèges inouïs que ceux de la loi ignoraient. Le pardon des péchés par l'unique sacrifice de Jésus. Est-ce que vous imaginez un petit peu quel système compliqué c'était dans l'Ancien Testament? Lorsque vous aviez commis une erreur, j'ai péché contre Dieu. Alors il fallait choisir un animal, il fallait, n'est-ce pas, l'attacher par la bride, le tirer au temple, et puis on égorgeait l'animal, et puis on offrait le sacrifice, et puis, et c'était à recommencer à chaque coup. Mon Dieu, que c'était compliqué, que c'était contraignant, que c'était exigeant. Mais maintenant, dites, sous la loi, il n'en est plus ainsi. Un seul sacrifice suffit pour ôter tous les péchés. Les péchés passés, les péchés présents, et je vais peut-être même vous étonner, et même les péchés à venir. Parce que Jésus a tout payé. Parce que ce sacrifice a une valeur absolue. Privilège encore. Parce que depuis la venue de Jésus, nous bénéficions de la nouvelle naissance. Mettez-vous ça, mes amis, dans la tête et dans le cœur. Les gens de l'Ancien Testament ne connaissaient pas la nouvelle naissance. L'œuvre du Saint-Esprit qui se fait en nous, en tout cas qui doit se faire lorsque nous venons vers Christ dans la foi pour être transformés, régénérés dans notre mentalité, dans notre être intérieur, pour que nous devenions de nouvelles créatures, cela, même les meilleurs dans l'Ancien Testament ne le connaissaient pas. Et c'est en cela que notre privilège est supérieur. Supérieur, notre privilège, il est aussi parce que nous avons en Christ la liberté de nous approcher de Dieu par lui, le Fils, qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Là aussi que c'était compliqué dans l'Ancien Testament. Le peuple de Dieu restait dans le parvis, les sacrificateurs entraient dans le lieu saint, et il n'y avait que le souverain sacrificateur qui entrait dans la sainte et redoutable présence de Dieu, et encore une seule fois par an. Mais aujourd'hui, en Christ, le voile est déchiré, vous et moi, nous pouvons en Jésus librement nous approcher du Père. J'ai prononcé un nom, un mot, le Père. Mais ça aussi, c'est un privilège de ceux qui vivent sous la grâce. Dieu est devenu notre Père en Jésus-Christ. Notre Père en Jésus-Christ. Quand Jésus a prononcé cette prière que bien des gens répètent aujourd'hui, sans trop savoir pour certains ce qu'elle signifie, mais c'était révolutionnaire. Il n'a pas dit « Éternel, Dieu redoutable qui est venu sur le mont Sinaï !» Mais il s'est adressé à lui en disant « Notre Père. » Et c'est plus qu'un nom, c'est plus qu'un mot, c'est une réalité, puisque nous avons en Jésus-Christ été adoptés en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Il est mon Père. Il est mon Père. Avec tout ce que cela signifie d'intimité, de tendresse, de bonté, de bienveillance. Peut-être en est-il parmi nous qui n'ont pas eu un père digne de ce nom. Peut-être même certains ignorent qui est leur véritable père, père biologique. Peut-être cela a provoqué toutes sortes de traumatismes psychologiques dans votre personnalité. Sachez que vous avez un père dans le ciel. Si votre père terrestre n'a pas été à la hauteur de la situation, mes amis, le père que vous avez là-haut, lui, ne vous décevra jamais. C'est le privilège de ceux qui vivent sous la grâce. Et puis, notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en nous produit son fruit. Amen. Toutes les vertus spirituelles que vous pouvez manifester. Oh, c'est vrai, nous sommes conscients de nos infirmités. Je parle d'infirmités spirituelles, de nos lacunes, de nos manques. Nous nous trouvons souvent en défaut et nous nous maudissons intérieurement. Mais quand même, nous ne noircissons pas le tableau à l'extrême. Il y a aussi, par sa grâce, de bons sentiments que Dieu nous permet de manifester. Ces sentiments-là ne viennent pas de vous. Ils sont produits, non par votre nature humaine, mais par l'esprit de vie qui produit en vous son fruit excellent, l'amour, la paix, la joie, la douceur, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité et la tempérance. Et le Saint-Esprit nous remplit pour nous donner d'être les témoins de Jésus. C'est le privilège de ceux qui vivent sous la grâce en Christ de pouvoir vivre cette expérience fondamentale. Car c'est fondamental que d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Alléluia. Je bénis Dieu pour le baptême dans le Saint-Esprit. Êtes-vous baptisé dans le Saint-Esprit? Si c'est le cas, persévérez dans cette voie. Demandez à Dieu qu'il y ait une mesure de puissance spirituelle supérieure qui se déverse en vous, que vous exerciez les dons spirituels. Et si ce n'est pas le cas, n'ayez de cesse que cette promesse s'accomplisse dans votre vie, puisque le Seigneur a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alléluia. Et c'est pour toutes ces raisons, et on pourrait certainement en trouver d'autres, qu'effectivement, le plus petit vivant sous la grâce est encore plus grand que le plus grand qui vivait sous la loi, en l'occurrence Jean-Baptiste, Que le Seigneur soit béni. Prions le quelques instants, voulez-vous. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ta bonté.